Vous écoutez Europe 1. Merci. Il est 22h. C'est l'heure du journal. Théo Manval.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, c'est de décider, tous ensemble, d'aller lever une dette commune sur les marchés.
Va-t-on vers une révolution à l'échelle européenne? La France et l'Allemagne proposent un plan de relance financé par un prêt collectif au nom des 27. Une première brèche dans le tabou de la mutualisation de la dette, Isabelle Horry nous expliquera. Quand le Conseil d'État tape sur les doigts du gouvernement et deux fois de suite, après l'interdiction des drones ce matin, ce soir les sages ordonnent la réautorisation des rassemblements dans les lieux de culte.
Je suis heureux qu'on nous prenne comme des adultes sérieux, capables de faire des rassemblements sans prendre de risques sanitaires.
Parole d'évêque dans ce journal. On fera aussi le point sur les dépistages massifs qui continuent dans deux abattoirs du Loiret et des Côtes d'Armor. Sur cette rentrée masquée pour 185 000 collégiens en zone verte aujourd'hui. Nous serons aussi en Italie, à Rome, où bars, coiffeurs et même la basilique Saint-Pierre ont rouvert leurs portes ce lundi. Et puis on réécoutera l'une des grandes voix du cinéma français qui s'est éteinte à 94 ans, celle évidemment de Michel Piccoli.
Je faisais partie de ces gens de théâtre qui disaient « Mais le théâtre, c'est de l'art, le cinéma, c'est du commerce ». Quelle bêtise.
Michel Piccoli, grand acteur sur les planches comme à l'écran. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Pôle emploi rouvre, mais uniquement sur rendez-vous. Michaël Oyer, directeur général adjoint, sera avec nous. Ce sera juste après le point sur la bourse avec Didier Hamaud de boursier.com et vos prévisions météo pour demain avec Anissa.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'annonce fait déjà réagir dans la classe politique française et bien au-delà en Europe. La France et l'Allemagne veulent donc lancer un plan de relance à 500 milliards d'euros pour sortir l'Union européenne de la crise, mais un plan financé par un prêt commun passé au nom des 27 par la Commission européenne. Isabelle Horry, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un tel prêt collectif, ce serait une révolution dans le fonctionnement des institutions.
Imaginez un peu, Paris et Berlin proposent que l'Union européenne fonctionne comme un État et qu'elle émette de la dette pour financer son budget, pour financer la relance du continent. Alors c'est ce que la France fait chaque année pour financer ses dépenses nationales. C'est une évidence pour un pays, mais jusqu'à ces dernières semaines, c'était inimaginable pour l'Europe. L'Allemagne et les pays du Nord avaient toujours refusé ce saut de solidarité. Le budget européen n'était composé que des contributions séparées de chaque État membre. Angela Merkel a donc bougé. C'est une belle victoire pour Emmanuel Macron qui en a fait l'annonce tout à l'heure.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, c'est de décider tous ensemble d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise. C'est une étape majeure.
Oui, une étape majeure aussi en raison de la manière dont l'argent devra être dépensé. Deuxième signe de solidarité, il va aller donc à ceux qui en ont le plus besoin pour essayer de réduire les écarts qui se creusent entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches. Il y aura donc ce qu'on appelle des transferts. Voilà, c'est à ce stade seulement une proposition franco-allemande, mais quand Paris et Berlin s'accordent, en général, le plus dur est fait en Europe.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et effectivement, la proposition doit maintenant être acceptée par l'ensemble des 27 à l'unanimité. Et l'Autriche émet déjà des réserves ce soir. Les aides de l'UE avec ce plan de relance devront être accordées sous la forme de prêts aux États en difficulté, demande Vienne, et non pas de subventions. L'Autriche qui tient donc à un remboursement par chaque pays de l'aide à laquelle il a eu droit. En France, le dernier bilan sanitaire continue de rassurer tous ceux qui scrutent les courbes. Il y a désormais moins de 2000 patients dans les services de réanimation du pays. C'est la première fois qu'on passe sous cette barre depuis le 22 mars. La décrue du nombre de cas graves se poursuit dans nos hôpitaux, 89 de moins en 24 heures, mais 131 nouveaux décès liés au coronavirus. L'État, lui, en revanche, s'est fait taper sur les doigts par deux fois aujourd'hui par la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d'État a d'abord retoqué, je vous le disais ce matin, l'usage de drones pour surveiller le déconfinement. Il n'y a pas de dispositif empêchant de reconnaître les personnes filmées. C'est une atteinte au droit au respect de la vie privée. Et ce soir, les sages imposent de lever l'interdiction de rassemblement dans les lieux de culte. Interdiction disproportionnée selon eux. Écoutez la réaction ce soir de Philippe Marsay, évêque auxiliaire au diocèse de Paris.
Je dis alléluia pour tous les cultes. C'était une espèce d'anorexie religieuse qui s'était développée et qui créait vraiment un corps malade, quoi. En plus, on arrive à la fête de l'Ascension jeudi, c'est-à-dire dans 3 jours, là, à la fête de la Pentecôte dans 10 jours. Je suis heureux qu'on nous prenne comme des adultes sérieux, capables de faire des rassemblements sans prendre de risques sanitaires. D'une part, nos églises vont être nettoyées intégralement avant qu'on puisse rentrer. Il y aura 4 mètres carrés disponibles par fidèle, du gel distribué à l'entrée de l'église. On va peut-être proposer 2-3 horaires de messe supplémentaires pour permettre à une assemblée de 1000 personnes de venir en 3 fois, par exemple. Et toutes les mesures de sécurité sont prêtes. Elles étaient prêtes pour le 3 juin. Elles seront prêtes pour jeudi prochain.
Philippe Marseille, évêque auxiliaire au diocèse de Paris, il répondait pour Europe 1 à Romain Noquet. En ce lundi, vous avez peut-être accompagné à nouveau vos enfants sur le chemin de l'école. 185 000 collégiens de 6e et 5e ont retrouvé les salles de classe aujourd'hui uniquement dans les zones vertes. Cette rentrée, on l'a suivie toute la journée avec vous. Stéphane Place à Pessac, près de Bordeaux. Alors quel bilan après la fermeture des grilles? Comment ça s'est passé ?
Eh bien, on a retrouvé des enfants souriants à la sortie du collège Alouette dans ce quartier paisible de Pessac. Des élèves de 5e et de 6e, pas mécontents à l'image de Salomé, de quitter enfin leur masque, d'autant qu'il a fait chaud ici aujourd'hui.
On pouvait l'enlever quelques fois dans la classe, mais vraiment, sinon on devait le garder le plus souvent possible. Avec le masque, c'est compliqué, en plus de parler, tout ça. Donc. Déjà, on devait tenir une distance d'éloignement, donc c'était un peu compliqué quand on voulait parler dans la cour, tout ça. Après les profs, du coup, c'était eux qui changeaient de classe et c'était pas nous. Elle était trop bien la journée. Était spéciale mais bien.
Retrouver sa fille heureuse d'avoir repris le chemin du collège, un soulagement également pour la maman, Vanessa.
En fait, pareil pour nous, on avait beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes. Très très contente que ça se soit bien passé.
Masque obligatoire, réorganisation des classes, de la cantine au final. Le bilan de la journée est positif pour le principal de l'établissement, Yannick Marmiès.
Nous avons 61% des élèves qui sont présents. Tout s'est bien passé. Pour les plus jeunes, les 6e, c'était parfois compliqué de respecter ce mètre de distance, notamment dans la cour, d'où le port du masque obligatoire. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte dans les salles qu'il y avait de l'espace et que ce masque finalement pouvait ne plus être un obstacle. On est content d'avoir vu des élèves légers.
Reste à rassurer les collégiens hésitants et qui ne sont pas encore revenus dans l'établissement.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Merci Stéphane. Mais pendant que les collèges ont rouvert, 70 écoles environ, maternelles ou primaires, ont dû refermer leurs portes aujourd'hui après des cas avérés ou des suspicions de coronavirus. C'est le cas notamment dans le Nord, à Roubaix. Cet établissement là-bas à Lionel Gougelot où un élève a été testé positif.
Quand on a appris en plus qu'il y avait un cas dans l'école, et ben maman elle a dit ah ben là c'est sûr vous allez pas y retourner parce que il faut pas mettre en danger toute la famille.
Élève de CM2, Marianne est pas retournée en classe ce matin et elle approuve la fermeture de son école comme Adem, son petit frère, scolarisé lui en cours élémentaire.
Moi je trouve que c'est une bonne décision qu'ils referment les écoles parce que il peut y avoir des malades qui le transmettent aux instituts.
D'ailleurs Kamel, le papa, juge que le retour en classe était prématuré la semaine dernière.
Je pense qu'on aurait dû les laisser fermer parce que ça sert à rien de prendre des risques. Comme ça, quoi. C'est très trop rapide. Puis à un mois des vacances, c'était vraiment trop risqué de faire reprendre l'école.
7 écoles fermées dans la ville pour un cas signalé. Principe de précaution maximale, assure Guillaume Delbar, le maire de Roubaix.
Ce qui nous permettra dans la semaine de gérer tout ce qu'il y a à faire. Ça va de la désinfection des écoles en passant par les tests et puis en travaillant pour être dans une logique de réouverture dès lundi prochain.
Mais l'affaire pourrait bien renforcer la méfiance de nombreux parents. Seuls 6% des élèves avaient retrouvé le chemin de l'école jeudi dernier à Roubaix.
Et outre les écoles, ensuite aussi, vous le savez, la situation dans les abattoirs. Depuis plusieurs jours, des tests massifs se poursuivent encore dans 2 d'entre eux. Dans le Loiret, près d'Orléans, où 54 cas sont désormais confirmés. Et dans les Côtes d'Armor, près de Saint-Brieuc, 69 cas ici chez Kermenet. Et Charles Guyard, un immense dépistage sera lancé sur place demain.
En effet, 800 salariés doivent y être testés demain. Une campagne massive qui fait suite à une précédente effectuée vendredi après l'apparition des premiers cas de Covid la semaine dernière sur le site. Mais étaient-ce vraiment les premiers d'ailleurs ? Pas sûr, à en croire Claudine Lecan, une médecin généraliste de Collinet, la commune la plus proche de l'abattoir.
Dans le mois, on a eu des gens travaillant à Kermenet, déjà mis en arrêt de travail, en isolement, non testés ou tests revenus négatifs, considérés comme Covid. C'est pas que depuis vendredi.
Ce mardi, la médecin participera la campagne de dépistage organisée directement sur le site. Les premiers tests sont prévus à 8h.
Il va y avoir des médecins infectiologues aussi de Saint-Brieuc, de Pontchaillou. Alors ça va être la même organisation que vendredi dernier. Il va y avoir des tentes d'installer et avec des médecins. Par exemple, nous, notre centre, il faut qu'on soit 2 médecins et 6 infirmières.
Une fois réalisés, les tests seront envoyés à Rennes pour analyse. Quant au traçage des cas contacts, la mission sera confiée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor. En cas d'un trop grand nombre de dossiers à traiter, les autres, c'est PAM seront sollicités dans le cadre d'un dispositif d'entraide. Il y en a 101 dans toute la France.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 depuis les Côtes d'Armor.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
22h tout juste passées de 10 minutes. Au volet économique, Uber annonce supprimer à nouveau 3000 emplois dans le monde, en plus des 3700 suppressions déjà annoncées au début du mois, ce qui fait au total près d'un quart de ses effectifs sur le carreau. Dans l'aérien, en revanche, Air France annonce reprendre progressivement ses vols d'ici fin juin, si les restrictions de voyage prises par le gouvernement sont levées d'ici là. La compagnie espère passer progressivement de 3% aujourd'hui à 15% de ses capacités, avec une reprise des dessertes vers Brest, Bordeaux, Marseille ou encore Amsterdam, Londres ou Barcelone. Barcelone qui reste encore sous cloche, alors que 70% de l'Espagne est désormais passée en déconfinement progressif. Tout comme l'Italie, Blandine Hugonnet, qui a commencé aujourd'hui à retrouver de l'activité.
Et oui, c'est un jour de grand redémarrage pour les Italiens. Depuis ce matin, les salons de coiffure ont accueilli leurs premiers clients, les bars et les restaurants ont réinstallé les tables en terrasse, les plages sont accessibles aussi et même les églises qui ont rouvert leurs portes, à l'image de l'immense basilique Saint-Pierre au Vatican, restée vide pendant 70 jours, complètement désinfectée désormais et qui a attiré les habitants de Rome ce matin, comme Franca, émue aux larmes derrière son masque.
Je n'étais pas venue depuis 5-6 ans à cause des longues files d'attente, mais aujourd'hui, voir que j'étais toute seule pour faire la queue, mais quelle émotion! Et surtout, pouvoir entrer dans la basilique, seule, pour moi qui habite juste à côté, c'est magnifique. C'est vraiment émouvant.
Et comme Franca, les Italiens sont sortis de chez eux ce matin, enfin libres d'aller marcher ou prendre un café, puisqu'à partir d'aujourd'hui, plus besoin d'attestation pour circuler dans une même région. Mais bien sûr, toutes ces réouvertures s'accompagnent d'une série de règles strictes. Masques et gants obligatoires pour les serveurs, climatisation interdite, réservation nécessaire à peu près partout. Après deux mois confinés, pas question de prendre des risques. D'ailleurs, le gouvernement italien reste prudent. Si la contamination repart à la hausse, le déconfinement sera stoppé.
Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 à Rome. Dans la quête d'un vaccin, le laboratoire américain Moderna annonce aujourd'hui des résultats prometteurs dans sa première phase de tests sur l'homme. Ça ne concerne pour l'instant que 8 volontaires, mais des tests à plus grande échelle sont prévus pour le mois de juillet. Dans le reste de l'actualité, on attend pour demain l'avis du conseil scientifique sur le second tour des élections municipales. Feu vert uniquement pour l'automne ou bien dès le mois de juin. Le Premier ministre consultera, après avoir reçu cet avis, tous les chefs de parti mercredi en fin de journée. Alors qu'à l'Assemblée nationale, le groupe La République En Marche pourrait bien perdre demain la majorité absolue. Une dizaine de ses membres doit déclarer officiellement un nouveau groupe parlementaire. Ces frondeurs version 2020 dénoncent un mouvement dérivant, je cite, trop vers la droite.
Europe 1.
22h12, merci d'être à l'écoute. On en vient au sport, mais pas vraiment comme on les aime. Une enquête vient d'être ouverte à Amiens pour mise en danger de la vie d'autrui. Après l'organisation ce week-end, Marion Dubreuil, d'un match de football rassemblant dans un vrai stade une centaine de personnes.
Oui, un stade plein à craquer, sans aucun respect des mesures barrières. Sur la pelouse synthétique, deux équipes au complet s'affrontent dans un championnat de quartier. Une sono permet de commenter le match pour les 150 spectateurs massés derrière les grilles du terrain, des groupes de jeunes mais aussi des familles. La rencontre est même retransmise en direct sur le réseau social Snapchat. Complètement aberrant en pleine crise sanitaire, déplore un policier. Les organisateurs de ce tournoi local ont voulu remettre ça dès hier soir. C'était sans compter l'agacement de certains riverains. Cette fois-ci, les footballeurs et leurs supporters ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Ils ont tenté de rejouer dans le même stade. Peine perdue, les grilles avaient été cadenassées. Les joueurs et le public ont repris la route pour débuter la première mi-temps dans un autre stade une heure plus tard. Rapidement évacué par les policiers, ultime tentative de relancer le match à l'autre bout de la ville en début de soirée et nouvelle évacuation. La police a relevé les plaques d'immatriculation des participants et exploite toutes les images postées sur les réseaux sociaux pour identifier les organisateurs. À ce stade, aucune poursuite n'a encore été engagée.
Et sur les vrais terrains outre-Manche, les clubs anglais de première division sont autorisés à reprendre les entraînements collectifs en petits groupes à partir de demain. Le week-end dernier, c'est le championnat allemand qui a repris, le tout premier à le faire en Europe. Enfin, il a eu une carrière immense, 150 films aux côtés des plus grands, Hitchcock, Costa Gavras, Godard ou Claude Sautet, des plus grandes aussi, Brigitte Bardot ou encore Romy Schneider. L'acteur Michel Piccoli nous a quitté à 94 ans, un artiste d'exception tant sur les planches au théâtre qu'au grand écran pour le cinéma. Angèle Châtelier.
Je ne t'éclairerai plus, Hélène.
Et de la vie de Michel Piccoli, beaucoup retiennent cet air, la chanson d'Hélène, qu'il fredonne avec Romy Schneider dans Les choses de la vie en 1970. L'art, Michel Piccoli, l'a dans le sang. Il naît d'un père violoniste, d'une mère pianiste, mais lui, c'est d'abord au théâtre qu'il s'illustre, des planches qu'il n'a jamais quittées, mais il s'éprend aussi du cinéma dès 24 ans. Cependant, c'est avec Le mépris de Jean-Luc Godard, oui, que le grand public le découvre en 1963. Depuis, il a surtout été Michel Piccoli le fidèle. Difficile de dissocier l'acteur de Louise Buñuel, Claude Sauté ou Marco Ferreri. Sous l'œil des réalisateurs, il partage avec chacun d'eux plusieurs films. Michel Piccoli est aussi Simon Dame dans Les Demoiselles de Rochefort ou encore le cardinal Melville, rempli de doutes dans Habemus Papam. 75 ans de carrière en tout et autant d'années à réfléchir. Au temps qui passe, à la vieillesse, sujet qui revenait beaucoup dans ses interviews, comme ici à Europe 1 en 2009.
Je trouve que plus on vit tard, plus c'est le bel âge. Donc moi, je suis très content d'être déjà vieux et j'espère beaucoup continuer à être très très vieux. Voilà. Je crois que j'ai toujours eu beaucoup de chance d'ailleurs.
L'acteur n'existe que dans le regard des autres, disait aussi Michel Piccoli. Un autre qui finalement ne s'éteint jamais.
Voilà, la France est orpheline de Michel Piccoli, dit ce soir Gilles Jacob, l'ancien patron du Festival de Cannes. C'était Angèle Châtelier pour Europe 1. À 22h, bientôt passé de 16 minutes. Un point sur la météo pour demain avec vous, Anissa. C'est assez simple, hein, Anissa, finalement. Bah demain, ce sera comme aujourd'hui.
Oui, effectivement, Théo, hein, avec donc demain en Corse, un ciel bien couvert avec des averses orageuses qui vont s'atténuer en fin de journée dans le sud-est, sur les Alpes du Sud et la Côte d'Azur. Là aussi, les nuages apportent des averses dès le matin. Dans l'après-midi, les averses se renforcent et elles seront même accompagnées d'orages dans le sud-est. Sur le reste du pays, le temps est très calme, ensoleillé. Il va faire beau demain, hein, sur quasiment toute la France. Avec demain matin, sur les côtes de la Manche, des nuages bas, des brouillards qui vont très vite se dissiper à la mi-journée. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane se renforcent jusqu'à 80 km/h. Les températures comptaient 4 à 9 degrés au nord-ouest, 8 à 13 ailleurs, ça monte, hein, jusqu'à 18 degrés sur le littoral méditerranéen pour demain matin. Et puis dans l'après-midi, là aussi, le thermomètre continue de grimper avec 19 à Caen, 21 à Bastia, 22 à Biarritz, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Lille, 25 à Toulouse, 25 à Metz, à Mâcon, 26 à Paris, 28 à Cahors et 30 pour Montpellier.
Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Merci beaucoup Anissa et Adadi.
Europe 1.
Vous ne bougez pas, dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview éco d'Emmanuel Duteil, Mickaël Oyer, directeur général adjoint de Pôle emploi. A tout de suite.
Europe 1.
Et à 22h18, on fait un point sur la bourse avec vous, Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Théo.
Wall Street débute la semaine en forte hausse à l'écoute des dernières avancées médicales.
Ça monte, ça part fort, oui, plus 3,85% sur le Dow Jones ce soir, 24 597 points. Le Nasdaq, plus 2,44%, 9 234 points. Vous en parliez tout à l'heure, la société de biotechnologie américaine Moderna a fait état d'avancées concernant un possible vaccin contre le virus Covid-19 et ça a fait flamber la valeur de 20% ce soir. Moderna est à $80. Les essais n'en sont qu'à la phase 1, ce qui veut dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et sans doute plusieurs mois à attendre avant de crier peut-être victoire. En tous les cas, ça plaît à Wall Street. Il y a aussi un autre moteur, c'est le pétrole qui remonte encore de 7% sur le baril WTI. Ce soir, $32. Le Brent retrouve les $35 avec une offre de pétrole qui continue de baisser, une demande qui remonte progressivement. Et ça donne évidemment une forte hausse d'Exxon, le géant pétrolier, plus 8%, $45.30 ce soir. Sur les autres valeurs technologiques, on a Apple qui va rouvrir 25 boutiques aux États-Unis, qui gagne 2,3%, IBM plus 3,8%, Microsoft plus 1%, avec Cisco plus 1,7%. Sur les devises, l'euro remonte un petit peu, 1,0915 face au dollar.
Didier, la bourse de Paris a elle aussi fortement progressé, de plus de 5% aujourd'hui.
Oui, alors c'est spectaculaire, effectivement, mais en fait, on refait le retard de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, le CAC 40 avait perdu 6%. Le rebond, effectivement, est de plus de 5%, 5,16% exactement, 4 498 points. C'est un rattrapage, on va dire. Le plan de relance européen de 500 milliards d'euros piloté par la France et l'Allemagne a fait mouche, en particulier pour les secteurs en difficulté qui attendent de l'aide. On a le transport aérien, l'aéronautique qui rebondit fortement. ADP plus 13%, Airbus plus 12% et Safran plus 9%. L'automobile aussi, Faurecia, l'équipementier plus 11%, Valeo plus 10%, Renault plus 8,5% et Peugeot plus 6,5%. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a aussi évoqué un plan d'aide pour accélérer la transition écologique. Et puis le secteur pétrolier, évidemment, dans le secteur du baril, remonte. Technip, plus 10%, Total, plus 7%.
L'exception du jour, Didier, le titre Ubisoft n'a pas participé au rebond.
Oui, encore une baisse, 1,5% de perdu, 68 euros pour l'éditeur de jeux vidéo qui cède encore du terrain après des résultats déficitaires et un avertissement sur ses comptes 2020-2021. Très prudent, la direction a un petit peu déçu, mais il faut noter quand même que le titre reste en hausse depuis le début de l'année de 12%, ce qui est quand même une prouesse sur le marché dans les conditions actuelles. Ubisoft, donc, ce soir, termine à 68 euros. Sur les autres places financières, ça monte partout après ce plan de relance européen. On a un DAX à Francfort qui grimpe de 5,7%, Bruxelles plus 3,2%, Madrid plus 4,7%, Milan plus 3,1%, et donc le CAC 40 plus 5,16%, 4 498 points.
Merci pour ce tour d'horizon. Didier Hamaud de boursier.com. 22h21 sur Europe 1, l'heure de l'interview Echo avec vous, Emmanuel Duteil, et avec vous ce soir, je le disais donc, Michaël Oyer, directeur général adjoint de Pôle emploi, dont les agences rouvrent partiellement cette semaine. Bonsoir à vous. Bonsoir Michaël Oyer.
Bonsoir Monsieur Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général adjoint chargé du réseau chez Pôle emploi. Alors justement, le réseau de Pôle emploi, les 900 agences réparties sur tout le territoire reprennent l'accueil des chômeurs depuis ce matin, mais on n'est pas en mode normal, pas question d'arriver comme ça, d'entrer dans l'agence. Déjà, le gros changement, c'est que ça ne se passe que sur rendez-vous.
98% de nos 900 agences, comme vous l'avez dit, sont ouvertes partout sur les territoires métropolitains et en Outre-mer, sauf à Mayotte. Alors ces rendez-vous, ça peut être pour accéder à ce qu'on appelle nos bornes en libre-service, hein, ou bien au matériel qui est en zone d'accueil, pour les personnes qui ne sont pas équipées de matériel informatique. Ces rendez-vous, ça peut être également lorsque un échange physique avec un conseiller est indispensable. Hein. Ça peut être notamment suite à une première inscription lorsqu'il y a besoin de certifier l'identité de la personne concernée. Tout simplement, à chaque fois qu'un demandeur d'emploi exprimera le besoin qui se déroulera en agence, on pourra le recevoir toujours sur rendez-vous, effectivement.
Est-ce que vous avez, depuis que vous avez annoncé ce dispositif, beaucoup de demandes ?
Alors pour le moment, le niveau de sollicitation reste encore assez modéré, je dirais. J'étais moi-même ce matin dans une agence du 10e arrondissement de Paris. Il y avait bien entendu des gens qui nous sollicitaient physiquement à ce qu'on appelle nos vidéoportiers, mais les demandes restent encore assez modérées.
Pourtant, malheureusement, on est certain d'une chose, les demandes vont exploser. On a vu les chiffres du mois de mars, plus de 246 000 demandes d'emploi. En plus, c'est tout simplement un record absolu sur un mois. Vous allez être pris d'assaut.
Alors, je ne dirais pas du tout comme ça. C'est effectivement, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi a augmenté ces dernières semaines. C'était une hausse qui était assez logique et qui s'explique assez facilement. Cette hausse, elle est liée à une hausse modérée des inscriptions. Donc pour le moment, on a constaté une hausse qui était encore restée assez modérée des inscriptions, plutôt suite à des fins de CDD, des fins de mission d'intérim, qui étaient un peu plus nombreuses que les mois précédents. Et la hausse du nombre d'inscrits, elle a plutôt été liée à une chute forte, et cette fois-ci assez inédite, du nombre de sorties en raison du confinement. Et donc du fait de la très grande difficulté pour les demandeurs d'emploi à trouver un emploi pendant la période de confinement. Pour l'avenir, pour le moment, moi, je ne m'engagerai pas sur de la prospective trop fine parce qu'on ne sait pas encore ce que donneront les mesures très fortes qui ont été prises par le gouvernement, notamment en matière d'activité partielle. Et donc, on verra. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair, notamment à la rentrée, après l'été, sur l'évolution ou pas de la hausse des inscriptions à Pôle emploi.
Mais est-ce que vous pensez que votre réseau est dimensionné pour faire face quand même à une potentielle hausse historique du chômage ? Parce que, comme vous le dites, il faut être prudent pour le moment et on espère que les plans de licenciement seront les plus limités possibles. Mais au plus haut niveau de l'État, on le dit, il va y avoir des centaines de plans de licenciement dans des pans entiers de l'économie. Est-ce que vous êtes dimensionné malgré tout pour faire face ?
Alors nous sommes dimensionnés pour absorber des pics de charge. C'est notre métier, on sait le faire. dans une année, on peut avoir des pics de charges qui sont plus ou moins forts, notamment autour des réinscriptions des mois de septembre, octobre, novembre, après l'été. Donc nous sommes dimensionnés pour faire ça, et ça c'est notre métier, nous savons le faire. Nous avons montré pendant la période de confinement que nous savions gérer l'actualisation à distance, ça s'est bien passé. La dernière actualisation, là encore, près de 97% des demandeurs d'emploi se sont actualisés sans difficulté. On a montré pendant la période de confinement qu'on savait absorber toutes les demandes de mail, par mail ou au téléphone. On a des taux de réponse au téléphone ou par mail qui sont très bons. On répond à moins de 24 heures pour les mails. Pour le téléphone, on a plus de 90% de ce qu'on appelle le taux de performance dans le métier. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, sur une période plus longue, effectivement, si jamais ce que vous décrivez devait arriver, il faudra se poser la question de notre dimensionnement. Mais pour le moment, la question ne se pose pas. Attendons la rentrée et on verra bien.
Alors, attendons la rentrée. Et il y a quand même une petite lueur d'espoir. J'ai vu que sur votre site, les offres d'emploi commençaient à réaugmenter depuis quelques jours. Je crois qu'à vendredi, je ne sais pas si vous avez un chiffre plus récent, on était à 446 000.
Alors ça progresse. Effectivement, il y a eu un stop des offres d'emploi assez marqué pendant la période de confinement. Après, ce qu'on a fait quand même pendant la période de confinement, c'est qu'avec l'État, on a créé une plateforme qui s'appelait mobilisationemploi.gouv.fr et sur laquelle les recruteurs pouvaient positionner des offres. Là, on avait encore la semaine dernière près de 11 000 offres d'emploi dans toutes les régions de France qui concernaient les secteurs prioritaires de la santé, de l'aide à domicile, de l'agriculture. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et puis, on commence à voir revenir les offres. On n'est pas encore au niveau qu'on connaissait avant le confinement, avant la crise sanitaire, bien entendu, mais ça commence à revenir.
Comme dans beaucoup de métiers, c'est vrai aussi à Europe 1, il a fallu inventer le télétravail chez Pôle emploi. Il n'y en avait quasiment pas avant cette crise. Quel bilan vous en tirez? Est-ce qu'une grosse partie de vos activités, finalement, vont pouvoir continuer en télétravail?
Je dirais qu'on connaissait déjà le télétravail à Pôle emploi. On avait depuis 2 ans déjà fortement accentué la capacité de télétravail de nos collaborateurs. Et on avait, au début de la crise sanitaire, près de 5000 personnes qui télétravaillaient régulièrement un jour ou 2 jours par semaine. Donc on connaissait, et ça, le fait de connaître le télétravail, de l'avoir déjà expérimenté depuis 2 ans, ça nous a permis, tout au long de la crise sanitaire, de monter de 5000 personnes en télétravail à près de 30 000 au moment où je vous parle, enfin ce matin. Donc c'est une activité, l'activité de Pôle emploi qui se prête bien au télétravail pour tout ce qui est relations de service. On verra ensuite quelles conséquences on peut en tirer. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra en tirer que des conséquences très positives, puisque, je vous le dis, 6 fois plus de collaborateurs ont pu exercer leur mission et ça nous a permis d'être au rendez-vous des besoins pendant toute la période de confinement et de la crise sanitaire.
Eh bien, un grand merci à Michaël Oyer. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du réseau chez Pôle emploi. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On retrouve d'ici là votre interview en intégralité sur notre site europe1.fr. Vous restez avec nous. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain.
Europe 1.
À la une de vos quotidiens, demain matin, Europe, la relance en marche. À la une des échos qui reviennent sur cet accord entre Paris et Berlin pour proposer un plan de relance de 500 milliards d'euros financé par un emprunt au nom des 27 lancé par la Commission européenne, en emprunt commun donc. Ce serait une révolution, Isabelle Horry nous l'expliquait en début du journal à 22h. Et dans les échos, la patronne de la BCE, Christine Lagarde, salue cette proposition qu'elle qualifie d'ambitieuse, de ciblée, de bienvenue de la part du couple franco-allemand. Attention, les termes du pacte de stabilité et de croissance européen devront être revus et simplifiés, dit Christine Lagarde. Il faudra aussi une validation des 27. Interview donc de la présidente de la Banque Centrale Européenne, c'est à lire dans les échos. Après le Covid, quelles mesures pour guérir l'hôpital, se demande le Figaro. La crise sanitaire a montré le dévouement et la réactivité des personnels soignants, mais aussi les rigidités du système hospitalier. Le Ségur de la santé annoncé par le gouvernement devra aboutir à des solutions compatibles avec les incertitudes budgétaires, nous dit le Figaro. Rendez-vous le 25 mai pour les négociations entre gouvernement et représentants du secteur. Le Figaro qui revient aussi sur le marché immobilier qui repart après 2 mois d'arrêt. Les vendeurs et les acheteurs semblent autant motivés les uns que les autres. Mais les acheteurs espèrent évidemment une baisse des prix alors que certains acteurs du secteur craignent une crise plus longue. Municipal, suite et fin en juin pour l'interrogation. Ça c'est la question à la une de Sud-Ouest. On attend toujours l'avis du conseil scientifique ce soir ou demain sur un scénario d'un second tour en juin ou bien à l'automne. Ce scénario scénario d'un second tour le 28 juin tient de plus en plus la corde, nous dit Sud-Ouest, alors que 5000 communes attendent d'élire leur conseil municipal depuis le 25 mars. Et puis à la une du Télégramme, enfin en Bretagne, un seigneur s'éclipse, l'hommage du Télégramme à l'acteur Michel Picouli qui nous a quittés aujourd'hui à 94 ans. Il est 22h, passé de 30 minutes sur Europe 1. Olivier Delacroix s'installe en studio pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.